Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydou Dia, bonjour. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a finalement annoncé mardi qu'il se rendrait mercredi matin au palais de justice de Dakar, chez le juge d'instruction qui veut l'interroger sur des accusations de viol, après avoir écouté ses avocats, son guide religieux et la société civile. Nous irons chez le juge, mais ce n'est pas une abdication, a-t-il dit. Le député de 46 ans est accusé de viol et de menace de mort par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. Monsieur Sonko dénonce un complot ourdi, selon lui, par le président Macky Sall pour l'écarter de la présidentielle de 2024, ce que dément Monsieur Sall. Au Bénin, deux opposants ont été incarcérés lundi pour association de malfaiteurs et terrorisme. Claire Morin-Gibourg nous en parlera. Au Mali, le parquet général de Bamako a déclaré mardi soir s'opposer à l'abandon, décidé plus tôt dans la journée, des poursuites intentées contre sept personnalités accusées d'avoir préparé un coup d'État, dont l'ancien premier ministre Boubou Cissé et l'animateur radio vedette Ras Bach. Le procureur général Idrissa Arizo Maiga a dit qu'il va se pourvoir en cassation. Nous reviendrons sur cette affaire avec Nathalie Barge. Au Burkina Faso, pays en proie aux attaques djihadistes, quatre personnes, dont une femme enceinte, ont été tuées mardi dans une ambulance du centre médical de Djibo qui a sauté sur une mine artisanale à Gaskende sur l'axe Djibo-Borzanga dans le nord du pays, selon des sources sécuritaires et locales. L'armée camerounaise a qualifié mardi d'allégations prétendument documentées les accusations de viol et de meurtre de civils par des soldats en mars 2020 dans une zone anglophone, théâtre d'un sanglant conflit séparatiste, accusation portée dans un récent rapport par Human Rights Watch. Les États-Unis se sont dit profondément troublés et ont demandé une enquête immédiate selon l'ambassade américaine à Yaoundé. Nigeria, Kenya, Angola et République démocratique du Congo ont à leur tour reçu mardi en Afrique leur première dose de vaccin contre le COVID-19 financée par le dispositif COVAX créé par l'OMS au bénéfice des pays les plus démunis. Le Ghana avait été le 24 février le premier pays à recevoir des vaccins financés par le dispositif COVAX, suivi par la Côte d'Ivoire deux jours plus tard. Environ 30 000 doses gratuites étaient aussi attendues mardi soir en Gambie. Le Sénégal voisin, qui a déjà commencé à vacciner, devrait recevoir mercredi matin un lot de 324 000 vaccins fournis par COVAX. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a assuré que le pays aura suffisamment de vaccins contre le COVID-19 pour tous les adultes d'ici fin mai. Dans un climat d'optimisme qui a poussé l'État du Texas et celui du Mississippi à annoncer la levée prochaine de l'obligation de porter un masque et la réouverture totale de leur commerce. Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé mardi des sanctions à l'encontre de responsables et d'entités russes pour leur implication dans l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny en août dernier. Reporters sans frontières a annoncé mardi le dépôt d'une plainte inédite en Allemagne pour crimes contre l'humanité visant notamment le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed ben Salman pour sa responsabilité dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Et en Afghanistan, le groupe État islamique a revendiqué l'assassinat par balle de trois femmes journalistes employées d'une chaîne de télévision afghane à Jalalabad de mardi, moins de trois mois après le meurtre similaire d'une de ses présentatrices, a indiqué l'agence américaine SITE, spécialisée dans la surveillance des groupes djihadistes. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Seydou Dia, restez à l'écoute pour la suite de nos informations. suite de nos informations, au Bénin, un responsable du parti d'opposition Les Démocrates et l'un de ses collaborateurs ont été incarcérés lundi soir après avoir été inculpés pour association de malfaiteurs et terrorisme. Davantage de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Biodraman Tidjani et son collaborateur Mamadou Tidjani ont été placés sous mandat de dépôt selon leur avocat, Maître Renaud Akbodjo. En garde à vue depuis le 22 février, ils ont été présentés au procureur spécial auprès de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui les a inculpés lundi matin. Mi-février, deux responsables du même parti, les anciens députés Noureni Atchadé et Justin Adjovi, ont aussi été convoqués auprès de cette cour spéciale, mais ont été libérés. Biodraman Tidjani et Mamadou Tidjani sont des otages politiques, a déclaré Rekia Madougou à la tête du Parti des Démocrates, dont la candidature à la présidentielle du 11 avril a été refusée par la commission électorale. Madame Madougou, proche de l'ancien président Boni Yayi, principal adversaire du chef de l'État Patrice Talon, a accusé ce dernier de harcèlement judiciaire. Le scrutin du 11 avril va opposer le président Talon et deux candidats très peu connus du grand public. Les principaux opposants ont été empêchés de participer à ce scrutin à cause de nouvelles règles sur les parrainages des candidats.
La justice malienne a annulé hier les poursuites contre 7 personnes accusées d'avoir préparé un coup d'État contre le pouvoir de transition, dont un ancien premier ministre et un animateur radio. Nathalie Barge.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako a rendu son délibéré à huis clos dans le dossier dit de complot contre le gouvernement, indiqué Kassoum Tapo, l'avocat de Boubou Cissé, dernier premier ministre avant le putsch d'août 2020. La juridiction a annulé les mandats de dépôt et ordonné la mise en liberté immédiate de tous les inculpés, ce qui met donc fin à cette affaire, a ajouté Maître Tapo. Son client, qui affirmait ne pas être en fuite mais en lieu sûr à Bamako, n'avait pas été interpellé. Contrairement à Mohamed Youssouf Batili d'Irasbat, militant polémiste et animateur radio, l'un des 5 hommes à avoir été placé en détention provisoire. Son avocat Zana Kone a confirmé l'abandon des poursuites. Ces personnalités étaient poursuivies pour complot contre le gouvernement, association de malfaiteurs et offense à la personne du chef de l'État. En décembre, la justice avait aussi interpellé d'autres personnes et responsables politiques, dont le secrétaire général de la présidence, Sékou Traoré.
Ajoutons que le parquet général de Bamako s'oppose à l'abandon des poursuites dans ce dossier de tentative de coup d'État. L'Égypte et le Soudan ont proposé la formation d'une médiation quadripartite dirigée par la RDC pour relancer les négociations sur le barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil. Le point avec Abdulrahman Dia.
Lors d'une rencontre au Caire mardi, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue soudanaise Mariam Al-Mahdi ont proposé la formation d'un quartier international dirigé par la République démocratique du Congo qui exerce la présidence en exercice de l'Union africaine pour abriter les pourparlers. Les deux pays ont confirmé leur attachement à la proposition soudanaise soutenue par l'Égypte d'étoffer le mécanisme de négociation sous l'égide de l'Union africaine selon un communiqué du ministère égyptien. Succédant au Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le président congolais Félix Tshisekedi a entamé en janvier un mandat d'un an à la présidence tournante de l'Union africaine. Le quartier comprendrait, outre l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et les États-Unis selon le communiqué. Depuis près d'une décennie, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie négocient sans succès les modalités de la gestion et du remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance qu'Addis Abeba a construit sur le Nil Bleu. Lancé en 2011, il est amené à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique.
La Minute Éco, John Linden.
La Côte d'Ivoire lance le défi d'une meilleure qualité du coton dans l'optique de cette amélioration du coton made in Côte d'Ivoire. L'Intercoton, qui regroupe les principaux acteurs de la filière, entend rendre plus compétitif le produit sur le marché mondial. La production cotonnière a connu une baisse drastique ces dernières années. Elle est ainsi passée de 120 000 tonnes en 2002 à près de 500 000 tonnes en 2020. Le Togo va bénéficier de l'extension de l'initiative de suspension du service de la dette, selon le Club de Paris. Les représentants des pays créanciers ont accepté d'accorder au pays une extension de la durée de suspension du service de la dette sur les 6 premiers mois de l'année 2021. Le Togo rejoint ainsi la Côte d'Ivoire et le Mali sur la liste des pays bénéficiaires de cette initiative. En perte de vitesse, l'assureur Britam va supprimer plus de 130 emplois au Kenya. Ce processus pourrait coûter plus de 6 millions de dollars à la société cotée à la bourse de Nairobi. Britam affirme que cette décision a été rendue nécessaire par la sous-performance financière et boursière de la société par rapport à ses pairs, ajoutant que ses coûts de personnel actuels restent gonflés.
À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le Cameroun prépare les éliminatoires de la prochaine CAN qui l'accueille en janvier 2022. 37 joueurs ont été convoqués par Tony Conceição, sélectionneur des Lions Indomptables, qui disputeront deux matchs les 22 et 30 mars contre le Rwanda et le Cap-Vert. Deux joueurs ayant participé au CHAN sont sur la liste, le gardien de but Kérido Hachou et l'attaquant Martin Assomo, deux fois élu homme du match lors du CHAN. Meyapia Fongen, le capitaine des Lions Indomptables des moins de 20 ans, obtient lui aussi une première sélection en équipe Fanion. Des absences de marque à noter, comme celle du gardien André Onana, suspendu un an pour dopage dans l'attente du résultat de son appel devant le tribunal arbitral du sport, et le latéral gauche Ambroise Oyongo, blessé juste après son arrivée en prêt à Krasnodar. Pour le reste, les cadres comme Eric Maxime Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi, Vincent Aboubakar, Christian Bassougog, Michael Ngadeu, André-Franck Zambouin-Guissa et Clinton Gier sont présents. En Espagne, à quelques jours de l'élection d'un nouveau président au FC Barcelone, son ancien patron, Joseph Maria Bartomeu, a été remis en liberté provisoire hier après son audition par la justice dans le cadre de l'enquête sur le Barça Gate, arrêté lundi et soupçonné d'abus de confiance et de corruption. Joseph Maria Bartomeu et son ancien bras droit, Raúl Masferrer, ont passé la nuit de lundi à mardi dans un commissariat avant d'être transférés au palais de justice de Barcelone pour y être entendus. Après avoir refusé de s'exprimer durant leur audition, ils se sont vus accorder la liberté provisoire par la magistrate en charge de l'affaire, dont l'enquête reste ouverte, a indiqué le tribunal hier. La police catalane a perquisitionné le siège du club. La Colombie a annoncé hier qu'elle envisage de rouvrir les stades au public avec une jauge à 30% de spectateurs pour la Copa América 2021 qu'elle organise avec l'Argentine et qui avait été reportée l'an dernier à cause du Covid-19. Une Copa América sans public n'aurait pas de sens, a déclaré le ministre des Sports, Ernesto Lucena. Il a ajouté que les autorités pourraient envisager une jauge plus élevée si la campagne de vaccination progresse à un bon rythme et que les cas de coronavirus diminuent. Cette 47e édition de la Copa América, organisée pour la première fois dans deux pays, est prévue du 11 juin au 10 juillet prochain. La Colombie a assoupli ces dernières semaines les mesures sanitaires du fait d'une diminution des cas et des décès dus au Covid-19.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, la récente tentative sanglante d'arrestation par l'armée à son domicile à N'Djamena de Yahya Diallo, candidat déclaré à la présidentielle du 11 avril, continue de dominer l'actualité politique. Dimanche, la police, épaulée par des militaires lourdement armés et des blindés, a tenté d'arrêter l'opposant en vertu de deux mandats d'amener de la justice pour diffamation et injure à l'égard de l'épouse du président Idriss Déby Itno. Selon le mouvement de M. Diallo, le FNC, 5 membres de la famille de l'opposant, dont sa mère, ont été tués par un corps d'élite de l'armée qui a défoncé son portail avec un char blindé. Une version contredite lundi par le ministre des Affaires étrangères, Amin Abbas Siddique, devant le corps diplomatique. Un tir de l'intérieur visant les forces de l'ordre a atteint mortellement la mère de Yahya Diallo, a-t-il affirmé, ajoutant que 2 militaires ont été tués dans un blindé dans la cour de l'opposant. Notre correspondant au Tchad, André Kotmadjingar, fait le point.
Pour le procureur de la République, Yahya Diallo a fait l'objet d'une poursuite correctionnelle en 2020, mais il a refusé de comparaître. C'est ainsi que la juridiction en charge du dossier a décerné un mandat amené contre lui par jugement avant dire droit en date du 8 octobre 2020, mais sans succès. Les officiers judiciaires en mission d'exécution du dit mandat ont fait l'objet d'une résistance ayant occasionné des pertes en vie humaine et dégâts matériels. Youssouf Tom est l'autorité de poursuite.
Cela est déplorable pour toutes ces victimes collatérales. Aux dernières nouvelles, Yahya Diallo a quitté son domicile avec l'aide de quelques acolytes et sa position demeure inconnue. Du côté judiciaire, un tel événement ne peut demeurer sous silence et une enquête judiciaire est ouverte pour meurtre, coups et blessures volontaires et complicité de meurtre et de coups et blessures volontaires contre tous les auteurs, les co-auteurs et complices de ces infractions.
Pour le ministre des Affaires étrangères, les autorités judiciaires sont confrontées à une rébellion de fait dans la capitale puisque ce n'est pas pour la première fois que Yahya Diallo défie l'autorité de l'État. Amin Abbas Siddique déplore l'instrumentalisation de cette affaire.
Bien avant cela, M. Yahya Diallo a fait l'objet d'un mandat d'amener pour avoir refusé de répondre à une convocation de la police judiciaire suite à 2 plaintes déposées contre lui. Refus de restituer 3 véhicules de service après avoir quitté ses fonctions de représentant de la CEMAC et diffamation et insulte à l'égard de l'épouse du chef de l'État. Le gouvernement de la République du Tchad tient à préciser que cette affaire relève purement du cadre judiciaire.
C'est dans cette situation tendue que les députés ont examiné et adopté quelques dispositions du code électoral alors que le dépôt des candidatures est déjà clos. Ismaël Mahamad Chaïbo est le ministre en charge de l'administration du territoire.
Des bureaux des électeurs, au lieu des 400, on est arrivé à 430. Et puis, par rapport à la COVID cette année, le diaspora n'a pas vraiment voté. La CENI n'a pas eu aussi à recenser tout ce qui sont à l'extérieur. Et de trois, on a ramené aussi l'âge de 45 ans à 40 ans pour tous les jeunes qui veulent aller aux électeurs présidentiels. Donc maintenant, les champs libres, hein, tout ce qui est à 40 ans, il peut se présenter.
Pour Dr Sita Kiyumbatina Beni, enseignant-chercheur à l'ENA, le gouvernement ne peut pas modifier le code électoral en plein processus.
Le code électoral qui est en train d'attendre les élections aujourd'hui dit 45 ans. La constitution qui a été modifiée après ça, sans tenir compte de les autres textes disent 40 ans et la charte africaine, n'est-ce pas, de la démocratie, des élections, de la gouvernance dit 35 ans et l'âge majoritaire dans notre conscience c'est 18 ans, donc tu as 4 âges. Donc rien que ça même là, on ne peut même pas organiser une élection dans ces conditions-là. Ce n'est plus maintenant qu'on doit modifier le code électoral. La solution c'est de reconvoquer, n'est-ce pas, tous les acteurs politiques, de remettre les textes sur la table et puis donc de les harmoniser parce que les textes sont en ce moment contradictoires. Donc ça veut dire qu'on est parti déjà même pour les contentieux avant même que les élections soient organisées.
André Kodumadjingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Ce mardi 2 mars marque l'an 1 de la présence du Covid-19 au Sénégal. Malgré les efforts des autorités, la pandémie sévit toujours dans le pays avec une deuxième vague très meurtrière. Retour sur un an de pandémie au Sénégal avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
La cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été contactée au sujet d'un patient de nationalité française présentant une fièvre de 39 degrés. Les résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs.
Le 2 mars 2020, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, confirmait le premier cas de Covid-19 dans le pays. Un an plus tard, le Sénégal cohabite toujours avec le virus, comme d'ailleurs les autres pays du monde. Depuis ce premier cas, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, des centaines de personnes décédées, des malades qui se comptent par milliers et des autorités sanitaires sur le qui-vive. Le virus a aussi chamboulé le mode de vie de tout un peuple, comme l'indique Aïcha Diop, mère de famille et chef d'entreprise.
Du jour au lendemain, on se retrouve avec des restrictions, ne pouvant plus bien sortir. Des fois, on était obligé de nous séparer de notre personnel. Les enfants enfermés à la maison pendant des mois. Mes enfants faisaient cours en ligne, mais pour un enfant d'être enfermé H24, c'était très compliqué. Le port de masque, gérer les choses, l'hygiène, ce n'est pas du tout évident. Et jusqu'à présent, on le subit. Nous ne pouvons plus aller dans certains endroits. Nous ne pouvons plus voyager normalement. Il est très compliqué de pouvoir vraiment avoir une vie normale.
Les médecins sont parmi les mieux placés pour parler de cette pandémie. Ils sont au front depuis un an. Voilà pourquoi ils sont les plus touchés par le virus. Docteur Danfaha, médecin au centre médical polyclinique de la Médina, jette un coup d'œil dans le rétroviseur.
Il y a eu beaucoup de tâtonnements au début, avec des stratégies peut-être qui ne collaient pas aux réalités sociétales, raison pour laquelle il y a eu beaucoup de remous. Tout de même, le Sénégal a pu s'adapter et a eu des résultats quand même encourageants. Il avait même placé à la deuxième place. Même si sur le long terme, on a vu que quand même, il y a eu cette deuxième vague qui est revenue en force avec vraiment une courbe exponentielle, avec un taux de décès qui a été très élevé et continue même de faire vraiment des ravages.
Des ravages qui touchent une économie au ralenti avec des secteurs très impactés par le virus. Même le secteur du sport n'est pas épargné. Ablaye Diop, entraîneur de basketball, s'en désole et plaide pour la campagne de vaccination.
Nous étions un peu dépités parce qu'en ce moment-là, on avait presque fini. Mais cette pandémie ne nous a pas permis d'y aller. Mais depuis lors, on a changé nos habitudes, nos attitudes, nos comportements. Mais jusqu'à présent, on vit avec. Moi, je me dis que c'est pas possible qu'un pays prend tant d'argent et le mette sur un vaccin. Et les gens se disent que ce vaccin va faire ceci, va faire cela. Moi, j'ai une lueur d'espoir. Tout le monde s'y met, il faut s'y mettre. Moi, je ne sais pas quand, mais je me suis inscrit. Quand on me dit, viens te vacciner, je vais aller me vacciner.
Ablaye Diop est conforté par Dr Danfaha qui soutient que le vaccin est à ce jour l'unique solution pour endiguer la pandémie.
Parce qu'il s'agit d'une mesure préventive qui a nécessité vraiment beaucoup d'efforts, de recherche pour aboutir à ces vaccins. Donc pour le moment, nous pensons que si vraiment cette stratégie, à savoir surtout de privilégier les personnels de santé de première ligne, mais également des sujets âgés avec ou sans comorbidité, ce serait une très belle chose. Et on pense que si toutefois la population est vaccinée, vraiment ça va permettre de pouvoir souffler et vraiment de pouvoir vaincre cette pandémie.
Le vaccin est donc une lueur d'espoir, mais aussi la seule solution à ce jour pour endiguer la pandémie. Selon le ministère de la Santé, 35 299 personnes sont déjà vaccinées et plus de 300 000 doses de l'initiative COVAX sont attendues ce mercredi à Dakar. Elles vont s'ajouter aux 200 000 doses de Sinopharm récemment acquises par l'État sénégalais. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Après des débuts tumultueux, l'Afrique du Sud a enfin commencé sa campagne de vaccination. Si certains restent méfiants, ces vaccins apportent de l'espoir à des millions de personnes. Reportage à Johannesburg d'Anita Powell, récit de Claire Morin-Gibourg.
En deux semaines, plus de 67 000 agents de santé ont été vaccinés, selon le président Cyril Ramaphosa. La deuxième phase débutera fin avril avec la vaccination des personnes âgées, des travailleurs essentiels et de toute personne qui a des facteurs de comorbidité comme le diabète ou le sida. Au total, l'Afrique du Sud espère vacciner 40 millions de personnes sur ses 59 millions d'habitants. Pour le docteur Richard Lessels, les autorités ont pris la bonne décision d'arrêter l'utilisation du vaccin AstraZeneca qui n'était pas totalement efficace contre le variant sud-africain. Et l'utilisation des vaccins russes ou chinois est à l'étude.
Bien sûr que ces retards ont déclenché beaucoup d'inquiétudes. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'introduire le vaccin chez autant de personnes que possible avant toute résurgence et toute éventuelle troisième vague.
À Johannesburg, le centre économique du pays, les habitants ont des sentiments mitigés au sujet de la campagne de vaccination.
Ce vaccin va nous aider parce que de nombreuses personnes en Afrique du Sud sont mortes à cause de ce virus.
Je ne pense pas que je prendrai le vaccin de Chito parce qu'il n'a pas été essayé ailleurs dans le monde. Pourquoi devrions-nous être les premiers? Pourquoi ne pas attendre, comme le reste du monde, un vaccin qui a prouvé qu'il pouvait nous mettre à l'abri de ce coronavirus?
La nation arc-en-ciel a un long chemin à parcourir, mais le président Ramaphosa reste optimiste.
So much has changed.
Tant de choses ont changé dans notre pays et dans nos vies, mais l'esprit de notre peuple n'a pas changé. Vous avez enduré les plus grandes épreuves, mais vous êtes restés résolus, unis et pleins d'espoir. Aujourd'hui, un an après que le virus a atteint nos côtes pour la première fois, nous avons une solution pour contenir les infections et vaincre la maladie.
Une victoire permise, dit-il, grâce au vaccin.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, la consommation de médicaments contenant du fentanyl est en hausse, tout comme les surdoses mortelles. C'est une épidémie que la pandémie de COVID-19 a reléguée au second plan. Reportage de Veronica Balderas Iglesias de la VOA et récit de Nathalie Barge.
Plus de 86 000 personnes sont mortes d'une surdose l'année dernière aux États-Unis. Une augmentation d'un peu plus de 24%. C'est un véritable problème de santé publique. Véronica Saint-Arnold a perdu son mari et mort des suites d'une surdose.
Mon mari vient de décéder. C'est un peu dur quand même. J'essaie juste de surmonter la perte et la vie quotidienne.
Pendant des décennies, son mari a utilisé des médicaments sur ordonnance et des opioïdes pour soulager une douleur lancinante résultant d'une série de chirurgies de la colonne vertébrale. Il pensait prendre des pilules normales alors qu'en réalité c'était du fentanyl. 100 fois plus puissant que la morphine, l'opioïde synthétique fentanyl a étendu sa présence mortelle aux États-Unis. Quelques milligrammes de fentanyl comme quelques taches de sel peuvent tuer. Mais mélangé à de l'héroïne et de la méthamphétamine, c'est une énorme source de profit pour les trafiquants de drogue illégale qui la vendent à l'insu de l'utilisateur. Jarrod Forget est l'agent spécial en charge de la division de lutte contre la drogue, la DEA, à Washington.
Because fentanyl is gonna make...
Ce que le fentanyl va rendre les gens plus dépendants de ces drogues, et c'est moins cher, c'est puissant, plus fort, donc beaucoup plus d'overdose.
Washington, la capitale fédérale, a enregistré une augmentation exponentielle des décès en 2020, qui a été l'année de la pandémie dévastatrice de COVID-19. La psychiatre Nora Volko, directrice de l'Institut national sur l'abus des drogues.
Le stress est le meilleur indicateur de la consommation de drogue. Et qu'est-ce qui est stressant? L'isolement dans lequel nous vivons, la perte d'emploi, le ralentissement économique. Il est facile de tomber dans ces comportements qui temporairement vous font sentir mieux.
Cory Cusimano a perdu son fils en 2015. Selon elle, les familles ne peuvent pas toujours payer le traitement pour inverser une surdose d'opioïdes.
La réadaptation coûte très cher, c'est entre 6 et 14 000 dollars pour un programme d'hospitalisation de 30 jours. Et après cela, ils peuvent reprendre une vie sobre.
La Maison-Blanche assure que l'administration Biden travaille sur des solutions basées sur la science, le renforcement de la lutte contre la toxicomanie et la correction des disparités raciales. Les agences de lutte contre la drogue intensifient leurs campagnes de prévention et de sensibilisation. Raj Parekh, procureur par intérim dans l'Est de la Virginie.
À commencer par les enfants d'âge scolaire, s'ils apprennent tôt tous les risques associés à ces substances mortelles, cela réduira la demande. Il s'agit de prévention, de traitement, d'application de la loi.
Les centres de prévention et de lutte contre les maladies, les CDC, estiment que le nombre de morts par surdose, essentiellement dues aux drogues opiacées aux États-Unis, a augmenté de presque 25% entre juillet 2019 et juillet 2020. Avant la pandémie, la crise des opiacés et la flambée de surdoses étaient le principal problème des services de santé publique. Mais aujourd'hui, tout le monde est débordé par le coronavirus.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.